quelqu'un de très très près de moi, à chaque année reçoit sur son bureau une enveloppe. Sans explication, il arrive le matin, c'est sur son bureau, et ouvre l'enveloppe, montant substantiel de bonus, ce qu'il ou elle appelle un bonus. À chaque fois, je dis attention, c'est la rémunération variable, ça varie, dadada, il dit non, ça va, ça va. Et là, ça fait 20 ans que l'entreprise en paie, en versait. L'année passée, aucun. Petite enveloppe. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup de départs, dont des VP, c'est une grande organisation. Donc, ça peut créer des effets inverses et pervers quand, en fait, on veut récompenser, reconnaître.
Bienvenue à l'épisode 15 de Culture Inc., le podcast qui explore ce qui définit et influence la culture d'entreprise. S'il y a bien un sujet qui est quelquefois tabou, quelquefois sujet de conflit et très souvent très peu expliqué au sein d'une entreprise, c'est le sujet de la rémunération. Dans cet épisode, je m'entretiens avec une experte et une passionnée de ce sujet et on tente de comprendre comment des entreprises peuvent bien ou moins bien maîtriser cette réalité qui existe dans toutes les entreprises. Donc, voici l'épisode 15, Rémunération et culture avec Mélissa Pilon.
Oui, alors mon nom est toujours Mélissa Pilon. Alors, je travaille principalement dans un rôle conseil d'accompagnement et de formation pour toutes les équipes RH. Aussi les dirigeants d'entreprise pour faciliter et surtout simplifier la gestion de la rémunération parce que faut pas se le cacher, la rémunération c'est un mélange d'art et de science, alors ça prend aussi une certaine éducation, je le dis pas ici péjorativement. Puis aujourd'hui je travaille pour une boîte de consultation que j'ai fondée qui s'appelle Rémunération Éco. Avant de me lancer, j'ai travaillé pour aussi des organisations québécoises, canadiennes et internationales pendant 8 ans. Et depuis 7 ans, j'œuvre dans le merveilleux monde de la consultation, puis je dois avoir accompagné, je dirais, près de 300 entreprises. Alors, de la rémune, j'en mange presque pour déjeuner.
Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée particulièrement à la rémunération?
J'aimais beaucoup le côté, c'est sûr, j'ai étudié en gestion des ressources humaines à la base, donc le côté humain et de faire parler les chiffres grâce à l'humain aussi, puis de l'aider à pouvoir prendre des décisions aussi. Donc, c'était par choix que j'avais choisi ce, parce que tout m'intéressait, mais j'ai choisi le meilleur des deux mondes, des ressources humaines, selon moi, à mes yeux.
On viendra à explorer qu'est-ce que de la rémunération, oui, principalement, mais avant, la petite question signature du podcast, parce que Culture Inc., ça parle de culture d'entreprise. Pour toi, c'est quoi de la culture d'entreprise? C'est quoi ta définition de culture organisationnelle?
Excellente question. C'est certain que moi, je suis plus imagée dans la vie. Alors, je répondrai en premier lieu par une image. Je dirais que c'est l'ADN, donc une image d'ADN. C'est sûr que ça la caractérise, l'entreprise. Ça la distingue aussi des autres dans son apparence, dans ses façons de réagir aux situations courantes de la vie de l'entreprise. Mais je pense pas que les entreprises définissent concrètement leur culture. Donc, je pense pas que c'est eux qui la définissent. Je pense que ça vient des croyances, des paroles, vraiment du concret des personnes qui composent l'entreprise. Puis ça sert aussi de base pour définir ce qui guide l'entreprise, les valeurs et tout. Et je dirais, pour pas faire de jeu de mots avec notre sujet d'aujourd'hui, je vois la culture d'entreprise comme et la marque employeur comme les deux faces d'une pièce de monnaie parce que un va avec l'autre. C'est vraiment la marque, selon moi, c'est un indicateur de la culture d'entreprise.
Décider d'explorer avec toi le thème de rémunération et compensation. Mm-hmm. Et assez rapidement, tu m'as dit, Mathieu...
Je t'ai remis à l'ordre.
Et donc, peux-tu juste m'expliquer un peu, en fait, c'est quoi la rémunération et surtout, pourquoi on ne devrait pas utiliser le terme compensation?
Compensation, en fait, ce n'est qu'un anglicisme, parce qu'en anglais, c'est compensation. Le mot francophone, c'est rémunération, mais on entend souvent quand même, on peut entendre compensation, mais ça serait un anglicisme. Alors, si on veut utiliser le bon mot, mais je voulais pas te froisser, bien entendu. C'est sûr que la rémunération, donc ça comprend plusieurs choses. Souvent, on pense que c'est seulement le salaire, mais c'est beaucoup plus que seulement le salaire de base. Ça comprend la rémunération qu'on appelle directe, donc ce qu'on voit directement, ce qui est le salaire, les bonus, s'il y en a, les commissions, etc. Ça comprend aussi des avantages plutôt indirects, donc l'entreprise ou l'employeur nous verse, mais qu'on voit peut-être un petit peu moins. Donc, les avantages sociaux, soit les assurances collectives, le régime de retraite, les autres conditions qui nous distinguent comme organisation, donc certains, disons, payent les passes, la STM, j'ai vu des baristas, du café à volonté, l'activité physique, etc. Donc ça, c'est ce qu'on voit directement ou indirectement. Étrangement aussi, ça va peut-être en surprendre plusieurs, on met aussi là-dedans l'environnement de travail. Donc, où est emplacée mon entreprise? Quel est mon horaire de travail? Est-ce que je peux faire du télétravail? Quel est le volet social? Ça comprend aussi le volet développement. Donc, on pense que c'est le salaire, mais non. Comment je me développe? Donc, est-ce que je rencontre fréquemment mon gestionnaire? Est-ce que on me donne la rétroaction régulière sur ma contribution? Et c'est justement ça qui est le plus important, le volet reconnaissance, autant le volet monétaire, mais oui que non monétaire. Donc, est-ce que j'ai une culture du merci? Donc, est-ce que on me remercie pour mon travail ou encore je suis dans la culture, ben si je lui dis rien, c'est que ça va bien. Donc, la reconnaissance fait aussi partie de la rémunération globale. Donc, en fait, cette rémunération globale-là, c'est unique à l'entreprise, puis c'est justement ce qui distingue cette entreprise-là de sa compétition. J'ajouterais peut-être aussi deux choses. Premièrement, mais est-ce que vos gestionnaires, donc c'est sûr que la rémunération ne vient pas sans les gestionnaires, est-ce qu'ils sont capables de décrire facilement qu'est-ce qui compose cette rémunération globale-là, qu'est-ce qui vous distingue de votre compétition? Donc, est-ce qu'ils maîtrisent le elevator pitch, si on veut, de la rémunération globale? Donc, ça aussi, question à se poser. Puis, au-delà de décrire les composantes, souvent, on est très bon à l'embauche. On décrit, voici, tu vas avoir A, B, C, D, E. Mais est-ce qu'on est en mesure aussi de quantifier l'offre de rémunération globale, donc de faire parler nos chiffres? Combien ça vaut au total ce qu'on offre à nos employés? Donc, et on serait assez surpris du nombre d'employés et gestionnaires qui ne le réalisent pas. Souvent, une offre, disons, je donne un salaire, exemple, de 50 000 $ parfois, une autre entreprise donne un salaire moindre, mais au total, quand on additionne ce qui compose, l'offre, elle est plus généreuse. Donc, le fameux, quand je me compare à mon ami travaille ailleurs, ben, ça veut en fait rien dire parce qu'il faut regarder vraiment le volet global de ce qu'on nous offre.
À t'écouter, en fait, j'ai ouvert, j'imagine que comme les auditeurs aussi, on découvert différents axes qu'on pensait absolument pas faisant partie de la rémunération. Honnêtement, je pensais que la rémunération, c'était tout ce qui était comme un peu imposable, tout ce qui arrive sur le slip de paye. Donc, quand tu parles d'environnement puis de stratégie de reconnaissance, comme mon Dieu, quand on va parler de stratégie de rémunération, ça va englober beaucoup plus de choses que juste combien on paye puis qu'est-ce qui apparaît sur le chèque de paye.
Oui, tout à fait. Puis, c'est tout est question de choix. Donc, certaines entreprises vont choisir, vont miser plus sur le direct, indirect, sans pointer personne, mais une image qui frappe, disons, la STM. Donc, eux ont fait le choix de miser sur le salaire de base et les avantages sociaux. Mais une autre entreprise, disons, Walmart, qu'on connaît tous, mais eux misent sur l'environnement de travail, le volet reconnaissance, le développement. Donc, c'est vraiment un choix d'entreprise. On n'est pas nécessairement obligé de payer des salaires, disons, au-dessus du marché. On en reparlera tantôt, assurément. Mais c'est vraiment un choix et comment on le diffuse après à nos employés.
Est-ce que il y a différents, mais là, tu ouvres la porte, de différentes entreprises qui ont différentes stratégies, parlons-en, est-ce que quel type de stratégie de rémunération que les entreprises ont comme choix ou qu'offrent régulièrement?
Oui, bon, mais alors ça, c'est vraiment le vif du sujet. Ma réponse sera assurément plus longue peut-être que tes autres questions, mais tu vas voir, ça ne fera pas mal. Donc, avant de commencer, c'est certain qu'il n'y a pas de formule universelle. Comme je le disais, c'est faut trouver notre formule optimale et unique à notre entreprise. Bien sûr, faut que ça soit lié à qui on est comme entreprise, à nos valeurs, à notre culture. Donc, quelle que soit la formule qu'on retient, à mes yeux, il faut vraiment que la perception d'équité et l'équité elle-même, ça, c'est des incontournables. Sans surprise, les employés se comparent entre eux, donc ils se comparent en termes de contribution, donc ce que moi, j'offre à l'entreprise, ma compétence, ma scolarité, mon expérience, mon rendement. Ils vont comparer ça à ce qu'ils vont recevoir en échange de leur contribution. Donc, on parle de la rétribution, donc le salaire, comment mon salaire évolue, ma progression de carrière, etc. Donc, en comparant ça, si l'employé perçoit que cet échange-là est inéquitable, ici on parle de perception, donc si il perçoit que c'est inéquitable, mais c'est sûr qu'il va tenter par lui-même de réduire cet écart-là. Et là, la conséquence pour les entreprises, bien, c'est sûr que la personne peut arriver à transformer ou même déformer mentalement cette contribution et rétribution-là. Exemple, va dire, ben moi, je suis sous-payé ou je travaille bien trop fort pour le salaire qu'on m'offre. Donc, ça, c'est un des effets. Pourrait aussi changer véritablement sa contribution. Exemple, du nivellement par le bas ou en bon québécois, il s'assoit dessus. Donc, vraiment de dire, bon, je mets peu d'efforts, pourquoi je m'efforcerais? C'est ma perception qui est comme ça. Aussi, effet qu'on aime moins, changer d'emploi. Donc, souvent, c'est évidemment les meilleurs qui partent la plupart du temps. Donc, si on perçoit inéquitable ici, Puis je dirais peut-être d'autres effets qu'on voit souvent, bon, l'absentéisme, bien sûr, ça c'est ça fait mal aussi. Puis parfois même le vol de temps et d'argent. J'ai même vu un cabinet de dentiste où il y avait des techniciennes qui se sentaient sous-payées, donc ils avaient commencé à voler les brosses à dents. C'est un détail, mais c'est... Wow. Oui, donc du vol...
Quand tu disais du vol de temps, c'est quoi du vol de temps?
De dire, ben je pars, mon horaire est de 9 à 5, je pars à 4h30, je le dis pas à personne. J'ai mis l'exemple en tête, là, mais oui, tout à fait, c'est vraiment de voler du temps à l'ampleur, c'est dans cette optique-là que je l'ai mentionné. Donc, la stratégie ultime pour structurer, ben c'est sûr que c'est de se préoccuper de l'équité. Donc, on parle de forme d'équité. Donc, ceux qui ont étudié en ressources humaines vont sourire parce qu'on parlait d'équité interne, externe et individuelle, mais encore, ce que ça veut dire concrètement. Le premier, c'est dans le fond le volet à l'interne, on va venir ici comparer les exigences et les responsabilités de nos postes. Donc ici, on n'évalue pas des personnes, mais bien des postes. On veut choisir vraiment des éléments de mesure qui sont jugés importants pour tous les postes dans notre organisation, mais à des degrés différents, et pour lesquels on est prêt, entre guillemets, à en payer le prix. Par exemple, quelle est l'envergure des impacts, des décisions que le poste doit prendre, en fait, le titulaire du poste doit prendre sur l'image, la clientèle, les projets? Est-ce que c'est facilement corrigible ou encore ça peut être majeur? Est-ce que dans certains postes, la mise à jour des connaissances est plutôt stable, alors que pour d'autres, vraiment, on demande une mise à jour en continu? L'expérience, la fameuse expérience, est-ce que pour ce rôle-là, on demande une expérience minimale ou encore une vaste expérience est requise? Donc, ces facteurs d'évaluation-là vont venir renforcer puis expliquer justement pourquoi certains postes sont de plus grande envergure puis d'autres le sont moins. Pas que les postes sont moins importants, mais qu'ils sont de plus grande envergure aussi. Petite parenthèse aussi, pour les niveaux de poste, souvent dans certains postes, on constate, j'appelle ça des multi-rôles. Donc, par exemple, un programmeur, mais encore. Est-ce que il y a différents niveaux? Est-ce qu'on a des attentes différentes pour certains niveaux de programmeurs? Donc, par exemple, je peux progresser dans mon entreprise. Ici, tu peux commencer comme développeur. Ensuite, je peux progresser vers un programmeur spécialiste. Puis ensuite, je peux aller vers un niveau expert. Donc, en un one-pager, j'aime bien les images qui parlent. Donc, one-pager, qu'est-ce que ça prend clairement pour passer d'un niveau à l'autre? Donc, la personne, encore une fois, on parle de perception, va se dire « Ouf, je pensais que j'étais expert. Finalement, je suis pas rendu là du tout. Mais voici comment je pourrais t'accompagner pour progresser vers là. » C'est sûr que le gestionnaire, je le disais tantôt, c'est le cœur, donc impliquez-le dans la démarche, mon conseil ultime, même autant dans l'évaluation des postes, dans le fond, dans cette classification-là à l'interne, et aussi même des employés, parce qu'ils vont vraiment mieux comprendre comment ça fonctionne. Parce que souvent, et j'y arrive, quand on pense à rémunération, on pense au marché. Donc là, on a vu l'interne, et justement, on arrive au marché, qui est l'équité à l'externe, le fameux marché. Sûrement que toi aussi, ça te déjà toi-même fait des recherches sûrement sur les internets.
Autant en tant que contributeur qu'en tant que gestionnaire pour essayer justement de comprendre le marché.
Oui, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment une boîte noire parce qu'on veut valider l'équité à l'externe. Donc on compare nos postes au marché de référence. Donc ce n'est pas la valeur de la personne, mais c'est la valeur des postes qu'on vient comparer au marché. Parce que le réflexe ultime est premier quand on comprend pas comment ça fonctionne, mais c'est sûr qu'on va chercher notre valeur à nous. Donc, disons, moi, j'ai 15 ans d'expérience, mais je cherche des rôles qui ont 15 ans d'expérience. Donc, pour faire aussi un parallèle, plus jeune, dans une ancienne vie, j'étais agent de bord dans les avions, puis la question qu'on posait, qui venait très souvent quand on était en vol, c'est « on est rendu où ici? » Donc, je réponds la même chose à la question qui m'arrive aujourd'hui dans ma vie professionnelle, c'est « ça vaut combien un comptable ou un directeur des finances au marché? » Mais la réponse, c'est « j'en ai aucune idée ». Le marché, tout seul, ça ne veut rien dire. Je vais peut-être en faire sursauter quelques-uns, là.
Sûrement, dont moi.
Parce que le marché, mais encore, donc il faut s'attarder à plusieurs aspects, donc il faut avoir une réflexion. Un, à quel marché, c'est quoi notre marché visé ou nos marchés de référence visés? Est-ce qu'on veut se comparer à des types d'industries, donc en services professionnels TI, ingénierie? Est-ce qu'on veut se comparer à des tailles similaires, plus grands que nous, plus petits que nous? Est-ce qu'on veut se comparer pour une région précise? Est-ce que des employés de Montréal et de Québec, c'est la même structure de rémunération ou on va appliquer un volet régionalisation? Est-ce qu'on a la même stratégie pour tous les postes? Parce qu'on n'est pas obligé d'aller regarder au marché le même segment de marché pour tous nos postes. Dans certains rôles clés, disons, on peut choisir d'aller voir disons, nous, notre compétition pour, tantôt, je parlais de développeurs, donc notre compétition pour nos développeurs, c'est Montréal au complet, pas seulement notre taille d'entreprise. Donc, on peut faire des choix différents. Et aussi, il faut penser à la stratégie de positionnement au marché de référence. Donc, est-ce qu'on veut se comparer au marché, donc à la médiane, on veut le dépasser, on veut être les meilleurs, on veut être en dessous. Et même chose, on n'est pas obligé d'avoir la même stratégie pour tous les postes non plus. C'est pas que c'est des rôles moins importants, mais de dire, bon, mais pour tel type de poste, l'attraction, ça va bien, tandis que pour d'autres, là, je m'arrache les cheveux. Donc, on peut faire varier ça aussi. Et c'est vraiment, dans le fond, le marché, c'est tout est question de choix. Et j'encouragerais tous les employeurs à vraiment publiciser ces choix-là. Donc, justement, on les fait en fonction de notre stratégie de positionnement. Est-ce qu'on veut être les meilleurs au-delà, dans les best practices, est-ce qu'on veut être les meilleurs? Est-ce qu'on veut y aller en fonction de notre capacité de payer aussi? Mes petits conseils par rapport à ça, important d'utiliser plus d'une source. Souvent, on trouve une source de données, puis hop, moi, j'aime mieux en avoir au moins deux, personnellement, pour pouvoir challenger à ce niveau-là. Puis attention aussi aux sources gratuites. Ça aussi, il y en a beaucoup.
De Glassdoor.
Exactement, c'est ça. Je dis pas que ce n'est pas bon, mais au moins tenter de trouver des sources où on voit les descriptions du poste. Un autre exemple qui est arrivé récemment, un employé qui avait le titre CFO est allé voir sur une enquête que je ne nommerai pas, qui est très qui est très connue. Puis il a vu CFO, ben voici, moi je devrais gagner 150 000 $. Mais quand on regardait ses responsabilités, donc c'est sûr qu'il y a un clash aussi entre parfois le titre qu'on donne et les responsabilités du poste aussi. Il peut même aussi arriver je vous encourage aussi à créer vos propres postes. Souvent dans des PME, même dans des grandes entreprises, il y a des cas où des postes n'existent pas. Donc par exemple, 60% du temps, ce poste-là c'est un développeur expert, puis 40% c'est un gestionnaire de talent. Donc parfois on peut aller créer des rôles combinés qui n'existent pas. Partagez aussi vos sources avec vos employés. Donc, c'est sûr que c'est là où on se fait le plus challenger ou, en français, questionner, si on veut. Donc, c'est quoi notre choix de positionnement? C'est quoi nos sources? Est-ce que nous, on veut se payer? On paye en haut du marché, en dessous, pourquoi? Ça va éviter aussi oui, mais mon ami travaille chez CGI puis il gagne Y, là, aussi. Et autre chose très important, comment on peut se comparer au marché alors qu'on sait rien sur le contenu du poste, les exigences, le niveau. Donc souvent, il nous manque la base qui est le profil du poste, la description du poste. Et dans tous les rôles, y compris les rôles de moins grande envergure jusqu'à dans les plus grandes envergures, c'est important d'avoir vraiment c'est quoi nos attentes, parce qu'une description du poste, à mes yeux, c'est un croisement entre ce que la personne fait et les besoins de l'employeur. Puis si jamais on ne montre pas ça à l'employé, ben c'est sûr qu'encore une fois, automatiquement, il va aller voir sa valeur à lui et non pas ce que l'entreprise demande, en fait, ou exige.
Ouvert la porte de dire, tu parlais d'un CFO qui avait un titre puis qui est allé voir les fameux titres.
Oui.
Est-ce qu'on peut en parler un peu? J'ai même pensé peut-être en faire un épisode, mais je pense que c'est tellement lié à la compensation, pas la compensation,
merci,
la rémunération.
Tu peux dire compensation.
J'aimerais ça t'entendre là-dessus, que c'est où la place du titre et le lien qu'il y a à la rémunération.
Oui, mais finalement, peut-être tu pourras en faire un épisode. Mais bon, à titre de ma perception à moi, du moins, je vous dirais, attention parfois aux attentes qu'on peut créer avec des titres. Parfois, je recommence, souvent, on donne des titres pour faire plaisir, pour reconnaître un employé de longue date, quoi que ce soit, ou une demande qu'il y a eu. C'est sûr que si quelqu'un cherche l'avancement dans sa carrière, mais c'est facile pour lui, ben on va donner le titre de directeur, par exemple. C'est sûr que ça va conduire à peut-être une inflation du titre au détriment du travail qui est réellement effectué. Donc, ça va durer un certain temps, mais après ça, l'employé va faire ses propres recherches puis va dire, ben moi, je suis, exemple, directeur marketing, mais va aller voir des références de directeur marketing quand, dans les faits, ne gère pas d'employés, ne coordonne pas personne, le poste est peut-être de moins grande envergure, c'est une PME qui a 20 personnes, rien pour être péjoratif, là. Donc, c'est sûr que ça nous nuit un petit peu au niveau des titres. Donc, attention au niveau des titres. J'en conviens que dans certains cas, on n'a pas le choix. Par exemple, quelqu'un qui est aux ventes, si on l'appelle vendeur, ben les clients ne voudront sûrement pas lui parler. Il faut que ce soit au moins directeur des ventes à cet effet-là. Mais dans certains cas, ce qu'on fait souvent, ce que j'ai déjà vu, c'est qu'on peut avoir un titre à l'externe, puis un titre interne qui est propre à nos familles de poste et pour l'évaluation de tout le reste. Et encore une fois, faut quand même le mentionner à l'employé. Puis aussi par rapport au titre, vous allez probablement sourire, mais il y en a plusieurs qui vont se reconnaître. On voit de plus en plus des titres comme, exemple, ninja, rockstar, gourou, etc. Là. Donc ça aussi, pour avoir une idée de combien on rémunère ces personnes-là, mais il faut avoir une idée de ce que fait notre ninja, en fait. Donc il faut décrire ses responsabilités à cet effet-là. Donc voilà mon two cent sur les titres.
Tantôt, tu as parlé d'envergure. J'aime ça, cette expression-là, l'envergure du rôle et des facteurs d'évaluation à l'interne pour l'équité interne.
Oui.
Je ne sais pas si c'est ma perception, mais il y avait une ancienne approche. Je ne sais pas si c'est ancien ou plus traditionnelle approche que c'était soit l'éducation, soit l'expérience ou un mélange des deux, qui étaient vraiment les principaux facteurs d'évaluation. Est-ce qu'il y a une tendance que ça change? Est-ce que l'éducation et le nombre d'années d'expérience? Je donne un exemple. J'ai souvent vu, nous, des conversations en informatique disant, des fois, 25 ans d'expérience dans son sous-sol, c'est pas la même chose que vraiment 10 ans vraiment impliqué. Donc, c'est quoi ton point de vue sur ces facteurs d'évaluation?
Ben, je répondrai une réponse d'un politicien. Ça dépend. Mais le but, c'est vraiment, c'est bien que tu l'amènes, parce qu'on parlait on regarde à l'interne, à l'externe, donc on met ça ensemble pour construire idéalement une structure salariale. Donc, on appelle ça une structure salariale. Là, c'est bien, mais il faut la faire vivre. Donc, exactement comme tu le dis, par rapport à l'équité individuelle, donc justement, comment je reconnais mes individus, comment ils bougent au niveau du salaire, c'est sûr qu'il faut trouver en premier lieu c'est quoi les paramètres sur lesquels je souhaite que mes gens bougent. Donc là ici, oui, on évalue la valeur de la personne dans le poste qu'elle occupe en fonction des 10 paramètres. Donc oui, je le vois souvent dans certains secteurs, je vais pas non plus généraliser ou en nommer là, mais que l'expérience, OK, ben oui, mais moi j'ai 15 ans d'expérience. Oui, mais par exemple dans une entreprise en question, l'ancienneté, l'expérience était moins bien reconnu. En fait, ce qu'ils reconnaissaient, eux, c'est la compétence et la performance. C'est-à-dire quelqu'un qui a 5 ans d'expérience pourrait peut-être même dépasser le salaire... Pardon, 15 ans d'expérience pourrait dépasser... pourrait avoir un salaire moindre que quelqu'un qui ça fait 5 ans qu'il est là, mais qui a plus de compétences, qui est avancé dans son poste. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment, en premier lieu, comme entreprise, ben justement, les choisir, ces paramètres-là. Est-ce que nous, justement, on veut faire progresser en fonction de l'ancienneté? Est-ce qu'il y a un lien direct avec l'année d'expérience ou pas? Est-ce qu'il y a un lien direct avec la performance ou pas? Parce que ça aussi, c'est une autre croyance populaire. Tu parles de l'expérience, mais même chose, la performance. Certaines entreprises veulent faire un lien plutôt indirect, mais en fait, tout est question de choix et de communication de ces choix-là. Ce que j'entends aussi souvent dans le même esprit, c'est « Ah ben oui, mais moi, je viens d'avoir ma maîtrise, je viens de faire ma certification X. Est-ce que c'est reconnu? » Mais ça aussi, il faut se poser ces questions-là. Est-ce qu'on le reconnaît ou pas? Donc, est-ce que ça fait une différence pour ces rôles-là, ces postes-là? Comment je peux progresser, justement, aussi? Est-ce que c'est annuellement, deux fois par année, des entreprises, dans le fond, dans certains secteurs, ils regardent vraiment au semestre, aux 6 mois, à chaque semestre, de voir ce que mes gens sont bien positionnés. Puis dans d'autres industries aussi, souvent, je vois, ben c'est à la demande de l'employé. Mais là, quand c'est pas clair, dans le fond, il faut clarifier cette équité-là individuelle. Puis une autre croyance populaire aussi, ça aussi, je vais peut-être en faire sursauter quelques personnes. Il est faux de dire qu'on doit payer tout le monde au marché. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on paye quelqu'un au marché, disons, on fait des recherches au marché, le marché, c'est normalement, c'est la médiane. Donc, le 50e percentile, on coupe la poire ou la pomme en deux, hein, tout dépendant. Donc, on regarde la description de poste, on lit ça. Quand quelqu'un maîtrise complètement le poste, donc autant le savoir-faire que le savoir-être, a fait le tour complet du jardin, là, vraiment, on n'entend pas parler pour les bonnes raisons, du moins. Oui, effectivement, devrait être payé sensiblement autour du marché qu'on a choisi. Par contre, si quelqu'un est en train d'apprendre le poste, soit se référer à d'autres personnes pour des situations nouvelles ou quand c'est plus complexe, mais c'est certain que là, oui, on va le payer sous le marché parce qu'il est en train d'apprendre. Ici, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, il est en train d'apprendre, donc c'est tout à fait différent. Puis au contraire, quelqu'un, disons, qui marche sur l'eau en continu, là, vraiment, voici le poste, puis toujours ailleurs, là, ben oui, on pourrait le payer plus que le marché parce que dépasse nos attentes, mais pas seulement une année, mais sur une base régulière. Donc, souvent, des entreprises, oui, mais ils sont venus me voir, puis oui, mais je suis pas payé au marché. Ben, effectivement, parce que t'es encore en train d'apprendre. Donc, faut que ça soit cohérent. Donc, c'est sûr qu'il faut, à mes yeux, à moi, communiquer et fréquemment les choix qu'on a fait, la politique, comment ça fonctionne. Ça évite justement de dire, ben oui, mais moi, où j'étais avant, on reconnaissait mon expérience, quoi que ce soit. Donc, et former aussi vos gestionnaires. Je reviens encore avec les gestionnaires. C'est pas des pompiers, là, mais c'est des premiers répondants, presque, parce que c'est eux qui sont au front, qui répondent aux employés. Donc, faut un minimum qu'ils soient capables d'expliquer ces choix-là. Puis c'est sûr que quand l'employé va comprendre, va dire, bon, mais je comprends que c'est équitable, je sais comment ça fonctionne, un minimum ou maximum, ça dépend de notre degré de transparence, ben, il va en venir à oublier son salaire. Puis c'est ce qu'on veut. On veut qu'il finisse par l'oublier, puis se concentrer sur son quotidien. Donc, est-ce que ma réponse était assez longue à ton goût?
oui, très clair. Mais je voulais juste explorer, est-ce que tu vois des tendances sur des différentes stratégies? J'ai travaillé avec, ou j'ai des parents qui travaillent dans l'éducation, puis toute ma jeunesse, j'ai entendu dire, c'est des années d'expérience où je vais aller chercher une maîtrise. Donc, c'était expérience d'années et éducation qui gère tout. Mm-hmm. Puis là, dans d'autres domaines, je l'entends moins, ça. Mm-hmm. Même des fois, c'est même pas pris en considération. Ouais. Est-ce que c'est juste moi qui ai changé d'industrie ou c'est des tendances qui changent?
Je dirais que c'est des tendances aussi qui changent parce que souvent quand je rentre dans les entreprises, je dis, est-ce que pour vous, quelqu'un qui a 15 ans d'expérience est nécessairement meilleur ou plus compétent que quelqu'un qui en a 5? Là, tout le monde sursaute, ben non! Mais effectivement, donc aujourd'hui, à moins qu'on soit syndiqué dans certaines industries, disons au BNL ou dans le fond, quand ils sont pas syndiqués en tant que tel, oui, on regarde l'expérience beaucoup, mais je vois que ça tend beaucoup à y aller vers la compétence et ou la performance. Je dis et ou parce que ça pourrait être un autre sujet, mais il y en a beaucoup qui évaluent moins de façon formelle la performance. Mmh. Mais oui, tout à fait, tu as raison. Donc, dans certaines industries, c'est encore très là, surtout dans les industries où c'est syndiqué, parce que là, c'est sûr que tu peux savoir ton salaire dans 5 ans, presque, là, ce qu'il sera. Mais oui, tout à fait, c'est en train de changer beaucoup. Et certaines industries qui sont plus réfractaires, à mes yeux, à moi, mais quand même, il y a des avancées.
Ça bouge.
Oui, c'est ça, tout à fait.
On parle de culture chez Culture Inc. Mm-hmm. Rémunération, certainement, ça a un lien sur la qualité que les gens ont entre eux et avec leur entreprise. Quel lien que tu fais entre des stratégies, des bonnes, des moins bonnes, des bien gérées, des moins bien gérées et la culture d'une entreprise?
J'imagerais encore avec un scénario. Exemple, tu travailles dans une entreprise, il y a des tables de baby-foot, un mur d'escalade, on peut même faire des siestes, on paye 100% de mes assurances collectives. D'ailleurs, j'ai même vu quelqu'un qui avait une application sur son téléphone intelligent pour s'assurer que tout le monde avait complété sa feuille de temps. Puis quand c'était fait, ben le frigo à bière s'ouvrait. Donc, bref, j'ai vu de tout. Hein.
C'est bon.
Donc, mais la politique de rémunération, ben c'est flou ou inexistant. Je sais pas si je suis bien payée. Je comprends pas comment ça fonctionne. Donc, c'est sûr que fouiller sur Glassdoor, là, c'est sûr je vois beaucoup de commentaires flou, inexistant. Je comprends pas comment ça fonctionne. J'ai aussi entendu souvent, mais va voir le boss, il va te le donner. Ça, le fameux boss va te le donner, là, puis les gens se parlent. Je l'entends, je le vois. Et je le vois, c'est un vrai mot. J'ai aussi vu quelqu'un qui travaillait dans un centre d'appel, qui avait des doutes sur le... Dans le fond, c'était partagé, là, qui avait des doutes sur la perception d'équité, justement, qui avait ouvert toutes les enveloppes de slip de paye. Il travaillait la nuit, donc ça avait créé une petite révolution. Donc, bref, le lien avec la culture, veut-on construire une marque d'employeur qui est forte? Mais c'est sûr, commencer par bâtir une marque payeur, je dirais, qui est solide.
Une marque payeur.
Ouais, je viens d'inventer ce mot-là. Votre marque payeur, c'est justement la perception qu'ont vos employés actuels et vos futurs employés sur le salaire et les avantages de votre entreprise. Puis même, on pourrait demander, situation hypothétique, si on demandait à un candidat potentiel qui demandait à vos employés, comment trouves-tu, toi, la rémunération et les avantages sociaux chez vous, est-ce que vous savez vraiment ce qu'il répondrait? Donc, c'est sûr que si la réponse est non, c'est sûr que ça pourrait avoir de l'impact sur votre recrutement, votre capacité de rétention, donc ultimement sur votre marque employeur. Donc, c'est sûr qu'au-delà de la paye, entre guillemets, à mes yeux, il faut s'attarder aussi à comment on parle de rémunération à nos employés et comment on la gère.
Donc, il y a deux sentiments à éviter ou qui peuvent qui a un lien fort, c'est le sentiment d'iniquité ou d'injustice. Mm-hmm. Puis de ce que je comprends aussi, c'est de la confusion, de la non-compréhension.
Exactement, oui. Parce que c'est sûr que l'humain étant ce qu'il est, si on est laissé dans le gris ou dans le flou, ben on va aller chercher nos réponses. Et la plupart du temps, mais ce n'est pas la bonne réponse, parce que quand on nous dit rien, on va trouver l'information qu'on croit qui est la bonne.
Ça peut peut-être même causer une certaine culture de... Quand t'as mentionné aller voir le président ou le boss, mm-hmm. de se poser la question, là, faut-tu que je prouve quelque chose? Faut-tu que je montre que... Ça doit créer des pas des sentiments de compétition, là, mais vraiment dire de bomber le torse puis dire, moi, je veux plus d'argent, donc je vais soit écraser les autres ou je suis vraiment comme en mission personnelle pour avoir plus. Donc, ça doit créer des drôles de liens entre les employés aussi.
Oui, tout à fait. Puis... je dis toujours aux entreprises avec lesquelles je collabore, mais c'est à mes yeux, à moi, en rémunération, tout doit pouvoir s'expliquer. Donc, si quelqu'un rentre dans votre bureau puis vous demande « Mais pourquoi lui est payé plus que moi? » Ben, il faut trouver une réponse. Non, pardon, il faut avoir une réponse intelligente et cohérente à lui donner. C'est sûr que des exceptions, il peut toujours en avoir, mais quand même, il faut que ça puisse s'expliquer, ces choix-là.
T'ouvres une porte, c'était pas dans le script, mais juste que peut-être l'explorer.
Oui.
Je me rappelle plus où, c'était soit un livre ou soit un article qui disait « Votre structure de rémunération devrait être claire et équitable », mais il y avait comme un petit point d'interrogation, pas un point d'interrogation, une petite étoile qui disait « Mais le top 5% devrait pas être capable de suivre », dans le sens qu'il y a des entreprises, peut-être c'est au niveau start-up ou en informatique, qui dit il y a une échelle à un moment donné d'une superstar où il y a quelque chose qui va avoir un impact fulgurant sur l'entreprise, puis ça rentre juste pas dans la structure...
Oui.
T'as-tu un point là-dessus?
Oui, j'ai un point de vue là-dessus. T'as bien fait des lectures. Puis, je pense pas que c'est encore fait beaucoup aujourd'hui, mais notre grande équipe de 3 personnes, on a commencé à en faire parce qu'effectivement, dans certains secteurs, la structure salariale classique, disons, mais classique, on regarde à l'interne, externe, etc., ça fonctionne pour la majorité de nos postes. Par contre, effectivement, dans certaines industries, je dirais même jusqu'à 20% là, que de dire ça fonctionne pas. Un exemple, il y a quelques années, je n'aimerais pas l'organisation, mais il y a une organisation qui avait recruté beaucoup de programmeurs .NET et SharePoint. À l'époque, c'était, disons qu'il y avait une petite bulle là-dedans. Là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont triché les évaluations de poste à la hausse pour que ça fitte dans les échelles, exactement ce que tu mentionnais. Et là, ben 5 ans après, ils sont pris avec parce que le marché, la bulle a descendu et quoi que ce soit. Donc, ce que je conseillerais, c'est d'avoir vraiment, oui, avoir une structure de base, mais d'avoir peut-être oui, pour 10-20% de nos postes, une approche plus pinpoint structure. Donc, en français, une approche de marché. Donc, pour ces postes-là, et les nommer lesquels, donc en comité de direction, nous, on a, disons, ici, chez nous, on a 5 postes, que ces postes-là, on va appliquer une prime de marché, parce que justement, les échelles, ça ne fonctionne pas. Il y a une bulle là-dedans. Puis, en ajoutant une prime de marché, souvent, on la voit en pourcentage du salaire, bien, elle pourra varier quand ce poste-là va devenir moins hot, donc les hot skills ou quoi que ce soit. Là. Donc, il passera jamais de 10%, exemple, à 0, là, mais ça va s'adapter en fonction du marché. Donc, disons, le poste est dans ma classe, disons, 5, mais systématiquement, on ajoute une prime de 10%. Donc, ça ne vient pas défaire l'équité à l'interne. Et quand on arrivera à l'équité salariale, ça demeure équitable aussi et ça s'explique.
Ça me fait penser à une autre idée, t'ouvres de plein de portes. J'ai travaillé dans des entreprises de start-up et on est 4, on est 5, on engage. Au début, c'est vraiment, je sais pas si t'as vu ça, les start-up, mais c'est rare qu'ils ont une structure salariale dès le jour 1. Donc, c'est un peu juste la négociation. On rencontre cette personne-là, il demande tel salaire, puis on engage. Et éventuellement, on va vouloir s'intéresser à structurer le tout, mais je sais pas si t'as déjà senti ça, le moment où on se transforme en une entreprise qui en a pas de structure à une entreprise. Là, on essaie de la structurer. C'est bien, tant mieux, on structure, mais on se ramasse à un moment donné à... On a ramassé plein de monde ici et là. Puis quand on essaie de la mettre dans cette structure-là, ça marche plus. Peut-être qu'il y a un 70% des gens que ça fonctionne, mais il y en a qui sont soit sous-payés par rapport à notre structure qu'on propose, ce qui est, je dirais... corrigeable assez rapidement, mais il y en a d'autres. La situation que j'ai vécue souvent, c'est il y en a d'autres qu'on est un peu mal à l'aise. C'est quoi tes expériences? C'est quoi ton point de vue là-dessus?
Ouais, excellent, parce que c'est sûr, en startup, on est d'une petite famille, puis à un moment donné, le chiffre magique est souvent 10. On devient une entreprise, on a des employés qui veulent savoir comment ça fonctionne, mes vacances, etc., dont mon salaire. Moi, j'appelle de manière Donc, on lui dit que c'est les cas popcorn. Donc, c'est sûr qu'il y en a tout le temps, même dans les startups ou dans les plus grandes entreprises. Donc, dans ces cas-là, il faut, disons qu'on se rend compte vraiment qu'il y a un clash, là, vraiment, la personne dépasse. Puis, en passant, on dit structure salariale, mais il faudrait presque changer le mot. Je trouve structure, ça fait vraiment, on me lie les mains, puis je peux pas bouger. Là. On pourrait l'appeler une flexible salariale, mais ça existe pas. Bref. Mais dans ces cas-là, si on voit que ça clash vraiment, ben il y a possibilité d'avoir un gel de salaire, mais en l'expliquant, par exemple, de dire, ben voici, on a fait l'analyse à l'interne, au marché, ton poste vaut X, comme tu le vois, tu dépasses de beaucoup la valeur au marché pour un rôle similaire dans l'industrie XYZ. La mauvaise nouvelle, c'est que, dans le fond, ton salaire va être figé jusqu'à temps que l'échelle te rattrape, mais la bonne, c'est qu'on ne diminuera pas de salaire, parce que ça aussi, on pourrait diminuer le salaire, c'est sûr qu'on ne le fait pas souvent, mais on pourrait le diminuer si on voit que c'est des cas, on appelle ça des « red circles », mais vous pouvez aussi, si cette personne-là, souvent, j'entends, ah, mais je peux pas rien donner, c'est un bon contributeur. Mais encore une fois, moi, je conseillerais de figer le salaire, mais peut-être de donner en montant forfaitaire. J'aime moins le mot boni, parce que ça fait acquis, là. Mmh. Disons, t'aurais eu, disons, 2-3%, mais je te le donne en montant forfaitaire. Puis si vous voulez aller plus loin, de dire, ben, ce montant-là, tu peux le prendre en argent, tu pourrais le prendre en congé, donc l'achat de congé, ou le mettre dans un REER. Donc, d'offrir de la flexibilité, de lui laisser l'opportunité de choisir. Puis, voilà. Donc, ça serait mon...
La fameuse diminution de salaire, oui. Est-ce que tu y crois? Moi, on l'a essayé quelquefois, puis ça n'a pas eu de très bon...
Non,
c'est des CV, fois accepté ouais. Sur le coup, puis on dirait que...
Le CV est prêt, hein? Le ouais. CV ouais, est prêt à envoyer, ouais, tout à fait. Non, il y en a peu... la plupart, dans deux organisations sur les 300, il y a eu une diminution, et parce qu'il y avait aussi le volet capacité de payer qui n'était pas là. C'était même l'équipe de direction qui avait accepté de diminuer leur salaire aussi. Mais on le voit... presque pas.
Parce que fois, ça fonctionne pas beaucoup.
Non, mais c'est sûr que si, par contre, dans les cas de rétrogradation, donc on a, exemple, je suis soudeur, je deviens chef d'équipe, je n'aime pas gérer des gens ou je sens pas que j'ai les compétences, mais si on réintègre le poste de soudeur, mais souvent, ce que je vois, c'est qu'on maintient le salaire. Mais là, encore une fois, je le vois très, très, très souvent, de dire, ben si, c'est sûr que si tu réintègres un poste de moins grande envergure, ben ton salaire pourrait être révisé à la baisse. Encore une fois, c'est pas coucou, je te coupe ta paye, là. Il faut que ça soit vraiment bien indiqué dans la politique, bien exprimé. Parce qu'une promotion, c'est qu'on change de rôle à la hausse, mais l'inverse, on pourrait aussi rétrograder. Dans ces cas-là, ça, je le vois plus, mais ça s'explique. Puis, parce que c'est sûr que si je suis soudeuse, puis mon collègue gagne 5$, souvent 100$ de plus que moi, mais il fait la même job que moi, mais je vais me poser des questions, là.
On parle d'argent et ça semble difficile, tu dis, pour les gestionnaires, faut les éduquer, faut les accompagner. Pourquoi c'est difficile de parler d'argent en entreprise? Pourquoi ça semble tabou?
Mais étrangement, il y a deux aspects. Pour les employés, c'est peut-être parce que je baigne là-dedans, mais de plus en plus, j'entends et je constate que les gens se parlent de leur salaire entre eux. Par contre, pour les employeurs, là, c'est souvent, là, non, on veut pas ouvrir les livres... On veut garder ce secret. J'ai même vu un manuel d'employé dans une organisation qui, je n'aimerais pas le nom parce qu'on la connaît, c'est indiqué noir sur blanc. Ici, il est défendu de parler de son salaire. Donc, c'est sûr, encore
dans
une fois.
Dans le manuel d'employé.
Tout à fait. Alors, wow. ma suggestion, même recommandation, était de modifier ça. Bref, encore une fois, on parle d'impact sur la culture et tout. C'est sûr que dans notre société, on se le cachera pas, on associe souvent notre valeur personnelle à notre valeur « marchande », entre guillemets. C'est sûr que la première question que quelqu'un nous pose, un inconnu, c'est souvent « tu fais quoi dans la vie? » Puis là, je trouve que le monde du travail y échappe pas, parce que maintenant, la question du jour, c'est désormais « mais combien d'argent gagnes-tu dans la vie? » Donc, maintenant, avant, c'était tabou, maintenant, c'est un sujet de discussion quasi banal. Puis j'ai mentionné tantôt, mais c'est certain que si on ne donne rien comme information aux employés, ben ils vont aller la chercher. Donc, les employeurs ont tout à fait avantage à diffuser de l'information, encore une fois, d'être transparent. Ça ne veut pas dire de tout donner, mais au moins d'expliquer peut-être pourquoi aussi on monte pas les chiffres, pourquoi on monte pas tout au complet. Puis, parce que c'est, je me rappelle, il y avait une étude de LinkedIn en 2019, là, seulement le tiers des employeurs qui partagent les échelles salariales. Puis la moitié disent qu'ils veulent pas aller plus loin pour le moment, ils veulent juste garder le salaire de l'employé puis pas aller plus loin dans la transparence. Mais on en parle depuis longtemps, plusieurs années de la transparence, mais là vraiment, faut y arriver parce que Sûrement que des gestionnaires qui nous écoutent, vous êtes bombardés d'informations, d'enquêtes, j'ai trouvé ça. Moi, je me fais un plaisir à décortiquer des enquêtes de rémunération, pas pour les démolir, entre guillemets, mais juste pour dire, ben, les déconstruire, voici, d'expliquer pourquoi, parce qu'il faut... C'est ça, souvent j'entends qu'on peur de créer des conflits entre les employés, si on partage trop, une crainte aussi que les gens vont retenir seulement le maximum de l'échelle, là, dire ben c'est en temps et temps, mais ils vont retenir la valeur maximale. Ça crée, même j'ai entendu aussi au niveau des négociations salariales, donc ça limite les négos, que les compétiteurs vont avoir de l'information sur nos pratiques. Mais j'ai travaillé aussi avec des entreprises qui sont déjà très transparentes, donc carrément que presque tout est ouvert, puis même, ça je vais pas nommer de nom sans avoir l'autorisation, mais ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y a Buffer, je sais pas si tu connais, tu peux calculer ton salaire, il y a un fichier Excel avec les noms d'employés, leur...
Eux, ils ont poussé la transparence au maximum.
Exactement, oui.
Puis, je pense que c'est tout leur revenu, toutes leurs transactions financières, toutes leur salaire et également comment c'est calculé, puis même les taux en différentes villes, parce que Buffer, c'est très remote. Là.
Oui, tout à fait.
Donc, je pense...
Il y a même les noms d'employés, pas les noms de famille, mais voici qui gagne quoi. Puis, donc, c'est sûr que je pense que les entreprises ne devraient pas avoir peur d'une plus grande transparence, sauf si on n'a pas confiance en nos pratiques. Puis justement, vous avez ici, je trouve, une belle opportunité pour démontrer aux employés que vous avez fait vos devoirs. Puis on peut y aller aussi à théorie des petits pas, bien sûr, en transparence. C'est sûr que si vous avez rien du tout aujourd'hui, puis qu'on ouvre les livres, là, ben c'est sûr qu'il y aura une révolution parce que tout ce qu'on montre, il faut l'expliquer. Donc, théorie des petits pas. J'ai vu de tout, donc des gens qui ne diffusent rien et qui expliquent pourquoi. Et ça va très bien parce qu'ils le disent. Mmh. Et d'autres que c'est complètement ouvert. Ils voient vraiment leur position dans l'échelle, que c'est très ouvert et que ça va très bien parce que justement, ils partent pas de... Ils ont du travail qui a été fait en amont.
Donc, ta recommandation, c'est pas vraiment d'être absolument transparent, c'est surtout d'expliquer pourquoi.
Tout d'avoir,
être capable d'être pertinent, pas pertinent, mais cohérent dans au sujet de la rémunération.
Oui. Mmh. Puis pas plus tard que la semaine dernière, je présentais, parce que je propose souvent de présenter aux employés comment ça fonctionne. Puis je leur ai posé la question. Je dis, écoutez, là, vous voyez des exemples, tout ça, là, vous posez sûrement, mais pourquoi vous montrez pas les vrais chiffres? Pourquoi on le voit pas, l'information? Puis tout le monde me regardait, mais c'est vrai. Donc, d'expliquer pourquoi on ne montre pas l'information. De dire, au début, c'est nouveau pour tout le monde. On veut que les gestionnaires aussi s'approprient le message, les principes et tout, la mécanique. Puis peut-être l'an prochain, on partagera le min-max. Mais dans le fond, d'y aller doucement, parce que j'ai beaucoup d'exemples, mais j'avais une entreprise qui avait rien du tout. Elle a dit, ben moi, je veux être transparent, donc j'avais donné plusieurs, disons, petits bémols, mais elle a dit, non, je veux l'ouvrir quand même, mais j'ai présenté les échelles intégrales, dans le fond, à l'écran, puis personne n'écoutait, tout le monde regardait en bas, à droite, complètement, c'est qui est là, c'est-tu moi, puis c'est certain. C'est sûr qu'on est humain, c'est ça, on tente de trouver l'information.
Au niveau de la transparence, est-ce que tu y vas jusqu'au propriétaire, au directeur, au gestionnaire de l'exécutif, ou c'est plus transparence au niveau plus des travailleurs ou des employés?
Autre réponse d'un politicien, ça dépend. Il y a des entreprises qui disent, ben nous, puis souvent je leur retourne la question, ben je veux pas que mes gestionnaires voient l'information. OK, sauf que vous voulez que, dans le fond, avoir plus de transparence avec leurs employés, mais pas la même chose applicable pour eux aussi. Donc, c'est sûr que, c'est ça. Moi, je dis, faut que ça soit cohérent avec qui on est. Encore une fois, si on leur montre pas à nos gestionnaires, mais d'expliquer pourquoi. Puis aussi, je donnerais l'image, plus jeune, j'avais une patronne qui me demandait de sortir une liste d'employés avec les salaires et tout et tout, puis elle l'avait oublié au guichet automatique. Donc, cet exemple-là, je l'amènerais à 20-20, de dire, si on oubliait cette liste-là au guichet automatique, est-ce que tu dormirais bien la nuit? Avec ça, serais-tu capable d'expliquer? C'est sûr que des exceptions, comme je disais tantôt, il peut en avoir, mais faut pas avoir une culture d'exception aussi. Mais puis avoir dans le fond, les rideaux dans une fenêtre sont pas tout le temps ouverts au complet, donc ils peuvent être aussi entre-ouverts, puis... C'est tout de même transparent.
J'ai parlé à quelques gestionnaires ou propriétaires d'entreprises qui ont fait ce virage-là de transparence et ils ont tous eu la même, à peu près la même commentaire. Quand eux, ils ont décidé de mettre aussi leur salaire, leur rémunération globale, publique, et beaucoup d'employés sont venus leur dire « je croyais que tu faisais plus ». Donc, ça, le côté opacité crée un genre de fantasme ou de l'imagination des fois qui est loin de la réalité.
Oui, mais c'est drôle, c'est pas la première fois que j'entends ce commentaire aussi. J'ai même entendu, je pensais que j'étais sous-payé, parce que c'est sûr que c'est prouvé aussi, là, l'humain tend à trouver qu'il est sous-payé. Puis je pensais, oui, que le président ou présidente, quoi que ce soit, était rémunéré davantage. Mais encore une fois, je trouve ça, c'est une belle marque de confiance envers les employés. Puis, ouais, voilà.
On parle de Buffer, qui est une entreprise qui a un peu innové, mais en tout cas, qui a poussé la transparence assez loin. Est-ce qu'il y a d'autres approches innovantes ou des nouvelles tendances au niveau de la rémunération?
Nouvelles tendances, innovations, ben, je dirais, c'est sûr que oui, bien sûr. J'en ai peut-être 3-4 qui me viennent en tête. La première, dans les échelles salariales, disons, plutôt traditionnelles, on voit des étendues, là, je vais essayer de pas trop de technique pour pas vous perdre. On voit des étendues qui sont à 80-120, c'est-à-dire 100%, c'est le marché de référence qu'on choisit, 80%, donc on paye 20% de moins que le marché pour les gens qui commencent et qui apprennent, puis on peut payer jusqu'à 20% pour des employés qui marchent sur l'eau, comme je disais tantôt, là, en continu. Par contre, 20% de moins que le marché, c'est large. Donc, la nouvelle tendance, puisque j'essaie de plus en plus de faire, c'est de rapetisser ces écarts-là, de dire on commence les échelles plus haut. Parce que c'est sûr qu'un pour des emplois où on fait le tour du jardin assez rapidement, si tu le pars à 80%, donc 20% de moins que le marché, mais ça peut prendre 10, 15 ans, 20 ans avant d'arriver à la valeur du marché quand tu es en pleine maîtrise de ton rôle. Et ça fait qu'on oublie des gens aussi. Donc, tu as sûrement déjà entendu, ah, ben lui, il est arrivé en poste, c'est payé plus que moi. Donc, c'est sûr qu'il faut suivre la cadence. Donc, je vous dirais de rapetisser rapetisser les écarts d'échelle, ça c'en est une nouvelle tendance. Une autre chose aussi, c'est même une croyance populaire, c'est pas nouveau là, mais c'est pas innovant non plus, mais je le ramène parce que il faut en arriver là aussi. C'est sûr que la plupart des entreprises manuellement pour les révisions mettent une augmentation salariale de X% qui est découpée en deux volets. Le premier, c'est comment tu progresses dans ton échelle, puis l'autre, c'est le fameux coût de la vie. Mais c'est sûr que tout ça, ça se termine par une augmentation, une grosse augmentation, pour être si ironique, de 2,5%. Parce que le marché, disons, au Québec, là, les augmentations, je parle pour toutes les entreprises, ça n'a pas tant varié que ça dans les 10 dernières années. Donc, on peut s'attendre à une moyenne 2,5 à 2,8 en moyenne. Donc, imagine le scénario suivant. Toi, tu es super bon, là, t'es vraiment cette année, tu t'es démarqué, je te donne 3%. La personne va faire « ouh ». Donc, c'est pas suffisant. Donc, dans certains cas, donc ce que je veux dire, c'est que prévoyez-vous une autre enveloppe pour des rattrapages salariaux. Et ça, ce n'est pas une seule année, c'est toutes les années. Il y a des gens qui vont progresser plus rapidement. C'est sûr que pour nos meilleurs, les retenir, là, si on les suit, donc à chaque année de voir où est-ce qu'ils sont payés dans l'échelle et où ils devraient être payés dans l'échelle. Parfois, le 3%, même souvent, ce n'est pas suffisant pour certaines personnes, les joueurs clés, entre autres, qu'on veut retenir. C'est aussi prouvé que pour susciter, disons, un engouement, l'augmentation, ça devrait être au moins 7 à 8 % pour créer un effet. Par contre, c'est aussi prouvé qu'après 2 semaines, c'est oublié. Ça, c'est autre chose. Mais bref, soyez proactifs. Regardez les gens sont où. Donc, parfois, quand on voit qu'il y a un écart...
Ici, Mathieu, es-tu? Merci beaucoup de votre écoute de cet épisode de Culture Inc. Où j'ai exploré la place du sérieux, du plaisir et du jeu dans la culture d'une entreprise. J'ai mis tous les liens mentionnés par Anthony sur le site web du podcast au cultureincpodcast.com. N'hésitez pas à partager à votre réseau ce podcast. Plus on partage, plus la culture organisationnelle devient un sujet de discussion parmi les entreprises. On se redonne rendez-vous au prochain épisode qui sera publié d'ici 2 semaines. Bye.
Parce que quand on donne, souvent, les gestionnaires ne veulent pas mal faire, mais souvent le chiffre magique, c'est 10 000. Là, comme là, je me suis fait offrir 10 000 ailleurs, mais on va y donner. Mais c'est quoi le message qu'on envoie à nos employés qui sont déjà là, première des choses, parce que les gens se parlent. Puis c'est quoi le message qu'on envoie à la personne aussi qui reçoit ce fameux montant-là de dire « ben là, j'ai été sous-payé pendant combien de temps, etc. » Donc, suivez vos gens, prévoyez-vous des enveloppes supplémentaires. Souvent, le mythe, c'est de dire « ben quand je refais mes échelles, j'ai des coûts d'implantation. » Mais non, à chaque année, suis-les tes gens, puis soyez... Puis je veux aussi ça va aider aussi à défaire le mythe que pour augmenter son potentiel de salaire, il faut changer de job. Ça, j'entends souvent. Donc, suivez votre monde. Suivez la progression dans les compétences. Est-ce qu'il est mûr pour un autre poste? Donc, créez-en un autre poste. Aussi de dire, ben lui ou elle, vraiment, on a un trou là, puis on va y créer son poste. Donc, suivez votre monde.
Donc, c'est pas un mythe, plus que c'est une réalité qu'il faut s'adapter.
Oui, exactement. Mmh. Fait que c'est ça, c'est tendance slash ouvrons nos yeux. puis, un autre élément... aussi, je dirais, de construire des échelles. Ça, j'ai dit tantôt, les échelles plus flexibles. Donc, de dire pour notre cœur, 80% de notre monde, oui, les échelles, mais dans certains cas, d'avoir des primes marché, donc qui vont varier en fonction, comme tu le disais tantôt, dans certaines industries, oui, TI, c'en est une, là. Ou, exemple, j'ai un électromécanicien, puis ça ne fit pas dans la classe, ou le programmeur Ruby on Rails aussi, qui est plutôt rare, là. Puis, un autre élément aussi, ça aussi c'est pas nouveau, mais peu d'entreprises vont là, puis je pense que de plus en plus ça va ouvrir des yeux. Il y a la flexibilité aussi, mais dans la rémunération flexible, donc rémunération à la carte. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça.
Non? Je pense que non, mais vas-y.
Mais en fait, c'est pas de faire plus avec moins, mais c'est de faire mieux avec autant. Donc, exemple, c'est de pouvoir réaménager des composants de notre rémunération en choix. Donc, il y a plusieurs alternatives de dire, bon, ben, il y en a même qui disent, ben, on autorise une diminution de salaire de 5%, puis ce 5%-là, tu pourras le prendre en choix. Si tu veux, j'ai même vu des trucs très, très funky, là, c'est sûr qu'il faut commencer, même chose que tantôt, théorie des petits pas. Donc, est-ce que je prends le temps, la retraite? Donc, le one size fits all, aujourd'hui, a moins lieu d'être. Et pourtant, nos programmes qu'on offre, c'est la même chose pour tout le monde. Même assurance collective, même régime de retraite, même, etc. Donc, ce concept-là, c'est de réaménager des composantes de notre rémunération pour laisser le loisir de choisir, pour avoir plus de flexibilité aussi.
À la carte, j'avais vu, entre autres, les entreprises en TI, entre autres, mais dans d'autres industries, qui offrent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages, là, sociaux. Sauf, il y en a tellement que souvent, quand on en parle, les gens disent « Ouais, mais la carte de STM payée, je viens en auto, je viens de la Rive-Sud, ça m'importe un peu. » Fait que l'idée un peu, les entreprises vont dire « Ben nous, on a un bassin. »
Exactement.
Un échantillon est choisi pour 10 000 $ au lieu de juste en offrir, puis que les gens ils disent, ben, j'en utilise juste le dixième parce que moi, je m'entraîne pas, puis je viens pas en métro. Donc, à la carte, je l'avais pas vu tout à fait au niveau du salaire de base, mais on le voit quelquefois au niveau des avantages.
Les autres avantages, oui, c'en est aussi. Oui, puis il y a plusieurs formes aussi. Puis j'ai même vu une entreprise aussi très... Tu vois, c'était une start-up. Tantôt, on parlait de start-up. Puis elle a dit, bon, parfait, venez dans le bureau. Fait que tous les employés, bon, si demain matin, on offrait justement la possibilité de diminuer de 5% votre salaire, encore une fois, je vous épargne, mais il faut calculer le tout annuellement pour s'assurer qu'on soit équitable. Bref, elle a demandé à tout le monde, donnez-moi les 10 choses que vous aimeriez avoir ici. Là, j'ai fait des gros yeux, vous avez, mon Dieu, elle va créer des attentes, non? C'était dans leur culture d'impliquer à 1000% les employés. Donc, c'est eux-mêmes qui ont choisi leur liste de choix pour le volet à la carte.
Est-ce que tu as déjà vu, là, on pousse la machine? Là, je sais pas, je dis Mathieu, t'inventes des choses. Une entreprise qui laisse ses employés choisir leur salaire.
Oui, ça je peux le dire parce que c'est publicisé, c'est Percolab entre autres qui, eux, ils fonctionnent beaucoup par projet. Donc, par projet, ça soit en équipe, puis eux-mêmes décident de leur salaire par rapport aux paramètres du projet. Oui,
c'est ça. Ça cause pas de problème de chicane?
Non, j'ai eu des échanges, puis depuis 2015, qui a fait ça, c'est Samantha Slade, avec qui je suis entretenue, puis c'est sûr que oui, ça prend de l'éducation, des rappels et tout, ça prend des balises, des paramètres, c'est pas, entre guillemets, le free-for-all non plus, là. Mais c'est drôle, même chose pour l'holacratie, ceux qui n'ont plus de gestionnaire. Souvent, on pense que c'est libertin, mais non, il faut vraiment avoir des paramètres établis. Donc, oui, il y en a des guidelines établis, puis en général, ça se passe très bien.
Donc, une autre pratique innovante au niveau de la rémunération.
Exact.
Bonus, partage de profit, équité, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Il y a des tendances, il y a des impacts au niveau de la culture?
Oui, tantôt je disais le fameux marché, je pourrais dire les fameux bonis. Ça aussi, on peut pas s'improviser là-dedans parce que souvent ça crée l'effet inverse de ce qu'on veut parce que le boni ou la rémunération variable, je fais attention au mot boni parce que ça aussi, c'est peut-être pour défaire un petit mythe, le boni c'est quelque chose qu'on connaît à l'avance. Et qui, oui, à qui. Donc, exemple, boni de rétention, je dis pas seulement ça à toi, mais je l'entends souvent, boni de rétention, boni de signature, boni de fin de projet, ça, tu connais les paramètres, tu connais le montant. mais la rémunération variable, ça le dit, ça varie. Donc, ce n'est pas acquis. Ça varie en fonction de paramètres qu'on détermine aussi. Donc, le but de la rémunération variable, c'est de contribuer à la motivation des employés et non pas de motiver, ça va contribuer. Mais c'est pas le premier motif. Le premier motif, le but du moins, c'est d'améliorer la performance de l'entreprise, d'avoir un système comme ça. C'est sûr qu'on doit, majeur, c'est sûr que ce système-là doit être lié à votre culture, vos valeurs, on le dit, on fait le lien. Là. J'ai déjà vu même un OBNL qui travaille avec des personnes âgées qui avait un système en place et qui créait de la compétition entre les employés. Donc, on parle de culture, de travail d'équipe, mais ça venait faire le contraire parce qu'il y avait des objectifs individuels très, très serrés. Même chose, bien communiqué, bien compris pour que ça fasse ces effets-là. C'est la plus grande critique que je peux faire, le fait que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Exemple, quelqu'un de très, très près de moi, à chaque année, reçoit sur son bureau une enveloppe. Sans explication, il arrive le matin, c'est sur son bureau, il ouvre l'enveloppe, montant substantiel de boni, ce qu'il ou elle appelle un boni. À chaque fois, je dis attention, c'est la rémunération variable, ça varie, dadada, il dit non, ça va, ça va. Et là, ça fait 20 ans que l'entreprise en paie, en versé. L'année passée, aucun petite enveloppe. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup de départs, dont des VP, c'est une grande organisation. Donc, ça peut créer des effets inverse et pervers, quand en fait on veut récompenser, reconnaître ou susciter la...
Comment on aurait pu éviter ça en expliquant très clairement que c'est un boni variable versus un boni
Oui, puis même le mot, c'est ça, boni, je tente de le changer vers rémunération variable. Okay. Puis c'est sûr que la première question à se poser face à la rémunération variable, c'est quelle culture on veut créer dans l'entreprise. Ça paraît très théorique, mais on n'a pas idée comment particulièrement le plan de boni ou variable, bref, c'est une image, la culture de notre entreprise. Est-ce qu'on veut, comme tu disais tantôt, partager les bénéfices ou les profits? Donc, tout le monde est important dans l'organisation. Ça aussi, est-ce que tout le monde a le même montant ou ça varie en fonction de l'envergure du rôle, ton nouveau mot préféré? Donc, c'est vraiment, faut se poser des questions aussi et faut, bien sûr, le communiquer. Parce que si c'est basé seulement sur des objectifs d'entreprise, bien, c'est sûr qu'on sent loin de l'impact de nos actions. Mais souvent, j'aime l'imager. Donc, j'ai déjà fait, disons, un thermomètre, de dire, bon, ben ici, cette partie-là du thermomètre, c'est vos salaires. Donc, ça prend, on voit beaucoup, beaucoup du thermomètre. Après ça, c'est les frais fixes. Après ça, c'est ça. Donc, l'excédent, mais on vous le partage. Donc, c'est ça. Tout est dans l'explication. Puis, ça peut justement, oui, avoir un impact sur la culture en fonction des choix qu'on fait et des finalités de nos explications ou non-explications, finalement.
Est-ce que tu proposes une approche différente au niveau de l'équité ou c'est pas mal comme la rémunération variable?
Qu'est-ce que
Stock options.
Oui, mais ben, équité, ça, je vous dirais, ça aussi, c'est un autre paire de manches. Stock options, c'est du long terme, de la rémunération long terme. Donc, c'est souvent dire, ah, ben, je veux le hooker, je veux l'intéresser. Donc, c'est pour des postes clés, des personnes clés. Donc, oui, on peut envisager des formes comme ça.
Même aussi, les entreprises qui... J'ai travaillé dans une entreprise qui a tous les employés.
Oui, oui. Non, mais une entreprise dans le secteur de la construction qu'on pense très, très traditionnelle. Je pense que 20 actionnaires, c'est des employés, dont il y a beaucoup de femmes en plus. Donc, eux sont très, très hors norme. Donc, oui, dans le fond, c'est de dire ben, l'entreprise nous appartient. Un exemple que je peux nommer parce que c'est public, c'est Sima Plus, l'entreprise d'ingénierie. Donc, il y a beaucoup de leurs gestionnaires, VP, qui sont actionnaires. Ça aussi, ça crée un sentiment d'appartenance, puis c'est dans la même famille. Mais je pousserais plus loin, puis dire ben, justement, pourquoi eux et pas nous? Donc, c'est d'expliquer exactement. Donc, c'est ça. Tout est dans la communication, c'est vraiment le cœur.
Tu nous as donné plein d'informations. Est-ce que si on essaie de rendre ça plus global ou plus, pas sommaire, là, mais c'est quoi, grosso modo, les bonnes pratiques que tu disais? Il y a des gestionnaires ou des gens d'entreprise qui entendent ça et qui disent, ah, je veux travailler, je veux apporter ça dans mon entreprise. Grosso modo, c'est quoi les bonnes pratiques que tu proposes?
Je commencerai avec une autre image, ou plutôt un personnage qui est Olivier Schmucker, qui est le journaliste des affaires, sûrement que plusieurs le connaissent ici, un chic type. Dans le fond, il parlait d'un sondage, même deux sondages. Le premier, ça a été fait par Robert Half, qui disait que le tiers des employés canadiens comptent trouver un emploi d'ici 12 prochains mois. Dans l'autre, qui se ressemble beaucoup, qui est très récent aussi, c'était Indeed, qui mentionnait que c'était aussi le tiers, mais d'ici les 24 prochains mois. Puis ce qu'on posait aussi comme question, c'est si, pour rester, qu'est-ce que ça prendrait pour que vous restiez au sein de l'entreprise? Dans les deux sondages, 63% versus 51% des employés disaient, ben si on me donnait un meilleur salaire, je resterais. Donc, on pourrait dire au premier degré, ah ben c'est simple, on va donner juste un meilleur salaire puis ils vont rester. Mais, parce que j'entends souvent, oui, mais on peut pas se permettre de le perdre, donc on va lui donner le montant de plus. Mais est-ce que c'est vraiment de donner plus d'argent ou plutôt si on avait une politique de rémunération claire en place, des outils équitables pour générer notre rémunération, si on communiquait mieux notre offre globale aux employés, nos choix qu'on fait, comment ça fonctionne, si on répondait mieux à aux attentes de nos plus talentueux. Tantôt, tu parlais, oui, mais des fois, 5%, justement, ces talentueux-là, est-ce qu'on les connaît? C'est qui? Est-ce qu'on s'en préoccupe? Est-ce que les employés sentent qu'on fait des efforts sincères pour souligner toutes les contributions individuelles, d'équipe, etc.? Et je te dirais, surtout, on pourrait le souligner avec un marqueur jaune si on arrêtait de réagir à la dernière minute. On en parlait en début de... Ben, hors onde, je reçois beaucoup, beaucoup d'appels, puis c'est souvent 9-1, de dire, oh, je perds mon monde, je sais pas quoi faire. Donc, soyons proactifs. Oui, ça demande du temps, ça le cachera pas, ça demande des réflexions, ça demande des choix. Mais si on est clair, si les gens, c'est ça, comprennent comment ça fonctionne chez nous, sentent que c'est équitable, ben justement, ils vont oublier le salaire, puis c'est ce qu'on veut, en fait.
Et éviter ou enlever le tabou de parler de rémunération.
Oui, tout à fait.
On sort du podcast ou du sujet de rémunération. Est-ce que tu as une entreprise, oui. Alors, en espérant qu'elle grandisse, est-ce que tu as pris des notes, toi, quand tu étais employé? Tu te dis, moi, si j'ai mon entreprise, j'aimerais que ça soit présent ou ne soit pas présent dans mon entreprise.
Oui, j'irai avec ce qui est présent, puis c'est drôle parce que depuis le début, je parle d'image et tout, mais j'irai avec les principes de la théorie de l'autodétermination. Là, tu vas me dire, mon Dieu, elle va me bourrer de théorie, là. Ne t'inquiète pas, ça fera pas mal. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Jacques Forest, c'est un professeur-chercheur à l'UQAM, d'ailleurs, donne fréquemment des conférences, puis c'est un excellent vulgarisateur, bref. Il dit qu'il y a il y a trois éléments communs qui expliquent comment l'être humain fonctionne de façon optimale, puis comment il peut être motivé au travail. Ces trois-là sont fondamentaux, puis j'ai observé dans mon expérience personnelle que quand les trois étaient optimaux, ben oui, ça fonctionnait en termes de motivation puis de cohérence. Donc, le premier, c'est le besoin d'autonomie. Donc, est-ce que j'ai une perception dans mon travail que je peux faire des choix? Est-ce que j'ai une marge de manœuvre? Aussi, est-ce que j'agis en fonction de mes valeurs? Est-ce que je peux être moi-même? Est-ce que je peux être authentique? Donc, autonomie s'applique à tous les postes, que tu sois manœuvre ou VP. Le deuxième, c'est le besoin de compétences. Donc, c'est sûr qu'on fixe des objectifs, mais est-ce qu'on est à mesure de les atteindre? Est-ce qu'on a les outils pour le faire? Est-ce que moi, je travaille selon mes forces? Souvent, je dis, oui, mais lui, il est pas capable de le faire, il peut pas. Oui, mais s'il est toujours en train de travailler à contre-courant de qui il est, c'est pas optimal non plus. Puis le dernier, c'est le besoin, lui, d'appartenance sociale. Dans le fond, c'est de sentir qu'on fait partie d'une équipe, d'un groupe plus large que nous-mêmes. C'est sûr que aussi, ça a à voir avec la relation avec notre gestionnaire. On a aussi souvent des images de « peux-tu me décrire un bon versus un mauvais gestionnaire? » Donc ça aussi, c'est sentir qu'on a une appartenance sociale aussi. Ben moi, je trouve que c'est motivation et culture d'entreprise, selon moi, c'est lié, parce que plus les deux sont en tandem, ben plus l'entreprise va atteindre ses résultats, puis plus le bonheur des employés va l'être aussi. Bref, ça fait très théorique, là, mais j'espère avoir été assez concrète.
mais tu listais ça, puis ça me faisait penser à un livre. Moi, peut-être que l'auteur, je vais me tromper, Daniel H. Pink.
Daniel Pink, oui.
Pink, Drive, oui, qui exactement. Est Purpose, Autonomy,
oui,
et Mastery.
Exactement, mais c'est les mêmes principes que ça. D'ailleurs, j'avais pensé le nommer, mais je disais, c'est trop old school, non, c'est pas vrai. Mais c'est pour vrai, oui, il y a même une petite vidéo aussi, ça date de, je pense, une dizaine d'années, là, sur YouTube, Daniel Pink, la motivation au travail avec des carottes et des bâtons, mais c'est très dynamique. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Mélissa, de
ta
présence. Énormément de matériel à digérer. Je vais réécouter plusieurs fois même cet épisode-là. Les gens seraient intéressés à te suivre ou à te contacter ou à collaborer avec Mélissa. Qu'est-ce qu'ils font?
Ah ben, ils peuvent aller sur ma page LinkedIn ou sur le site de Rémunération Éco. Ça me fera plaisir.
Donc, LinkedIn ou site web, tu réponds à ce niveau-là. Parfait. Mais encore une fois, merci beaucoup, Mélissa.
Un grand plaisir.
C'est ce qui complète l'exploration du lien rémunération et culture avec Mélissa Pilon. Ici Mathieu Etu. Je vous invite à visiter notre site web cultureincpodcast.com pour plus de détails au sujet de notre invité et des liens mentionnés durant cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme d'écoute pour ne rien manquer de notre série.
Merci beaucoup de votre écoute et on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode de Culture Inc.